Moi j'avais une question qui était sur la mise en page du CV en fait, le design. Parce que souvent il y a des personnes, enfin je le dis souvent, mettez en valeur, mettez des couleurs, faites des formes précises, tout ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, si vous restez sobre classique ou il faut vraiment exagérer à fond le.
Ah non. On en a marre hein, des CV des biologistes avec les bambous en toile de fond là. Vous avez vu ça? C'est hautement un vert, c'est pas du plus clair. Non, plus sérieusement, attention. Un, ils peuvent être imprimés en noir et blanc. Donc. Ah oui, attention aussi au avec quel fichier vous l'envoyez. Hein? Pardon? PDF, bien évidemment. Il y a certaines, on n'arrive pas à les ouvrir. Hein? Donc toujours en PDF. Hein? Moi, j'ai envie de dire, restons classiques. Hein, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Alors, les gens de la pub, ils peuvent s'éclater. Moi, j'ai vu des CV, même sur des ballons gonflables. Hein. D'accord ? C'est-à-dire, vous gonflez le ballon et le CV, c'est les gens de la pub, ça. Hein, ou des CV, BD, machin. Nous, bon, les juristes, c'est classique. Et d'une façon générale, on reste classique. On peut tolérer le bleu de Word. Hein, on peut griser légèrement, mais évitez aussi les tableaux. Là. Vous nous faites des tableaux là, sur votre CV, c'est... Parfois, on a l'impression de faire part d'annonce une mauvaise nouvelle. Donc, non, c'est vrai.
Non, moi, je crois aussi que le CV, en France en tout cas, il reste quand même relativement classique. Je peux, pourquoi pas, mettre quelques touches de couleur. Il y a quand même des excentricités. Et après, c'est de se dire, est-ce que ça peut passer ou pas. Ouais. Sur le mode classique, je pense que oui, c'est quand même relativement classique. Sauf, voilà, comme l'a dit Naïma, les seuls qui peuvent se le permettre, en marketing, éventuellement, la communication, la pub.
Voilà. Ah, mais classique. Mais on aime bien quand il y a du bleu un peu grisé. Par contre, quand j'ai dit aux étudiants à l'UM2 grisé, je me retrouve avec des trucs noirs. Je me dis, mais attendez, il y a des teintes dans le gris. Prenez le plus clair. Hein, parce que parfois, je me retrouve, je vous assure, quand j'imprime, à l'écran, c'est pas mal, c'est lumineux. Mais faites un essai imprimé. Hein, imprimé. Attends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, on est là jusqu'à 10h30.
Est-ce que vous avez des conseils sur la grandeur des caractères Parce qu'après, je ne sais pas normalement si on utilise un 12, un 13, un 14.
Oh non.
Non, parce que parfois, peut-être pour donner une visibilité.
Moi, j'en ai juste.
C'est d'être lisible. Voilà. Parce qu'effectivement, la tendance. Je l'ai déjà vu où l'idée vient. On dit mon CV, il faut qu'il rentre en deux pages. Je vais aller à l'extrême, voilà. Mon CV faisait 4 pages. Mais c'est bon, je le mets en caractère 6, il tiendra en 2 pages. Non, voilà. Mon CV doit être lisible, donc le caractère, ça va dépendre de la police que vous utilisez. Classiquement, c'est du 10, 12.
Voilà. Non, 10, 12.
Non, mais ça dépend des polices. Ouais. Il y a des polices, effectivement, en 12, c'est pas.
Moi, je dis.
Mais moi, je dis, classiquement,
c'est. J'en ai vu en 8,5, 9, c'est limite, hein. Parce que les gens qui vous recrutent, ils ont plus de. Moyen-âge 40 ans, quoi, il l'a vu, même avec les lunettes. Hein, voilà, moi je suis plutôt sur 10. Hein. 12, ça me semble un peu beaucoup. Hein, mais, ouais.
Le CV pour un recruteur américain ou anglo-saxon en général, est-ce que c'est la même forme ou pas?
Alors, le peu que j'en sais, hein, quand même, le CV des Britanniques, c'est un mix entre la lettre de motivation et le CV. Ils vont donner des informations personnelles et beaucoup plus rédigées. C'est-à-dire qu'ils parlent d'eux. Alors que nous, dans le CV, curriculum vitae, ça veut dire le parcours de la vie. C'est-à-dire, je vous donne les informations. C'est très factuel. Eux, ils rédigent. Même sur leur capacité relationnelle, sur leur trait de personnalité, etc. Alors ensuite, Rémi a parlé du CV européen. Hein, Europass. Il en a vaguement parlé. Vous avez des informations sur Internet. Hein, c'est-à-dire que... moi, j'étais à un colloque il y a 2 ans à Bordeaux. Et à l'époque, on me disait, ouais, là, dans 3 mois, tout le monde là. Écoutez, 2 ans après, le CV européen, il avait l'intérêt, l'avantage que les Allemands, les Italiens, les Français pouvaient se retrouver avec la même configuration. Mais il ne sort pas, ce CV européen. Alors, est-ce qu'il est valable pour les grands groupes? Peut-être. Mais j'ai pas l'impression. Alors qu'il y a 2 ans et demi, je vous aurais vu, j'aurais dit, ouais, à fond, CV européen. Vous voyez, maintenant, moi, j'en ai vu peut-être un.
Après, je me dis, ça dépend de votre projet. Je suis aujourd'hui dans une démarche de recherche de poste sur l'international. Bien évidemment, je vais m'adapter et utiliser un CV tel qu'il est pratiqué dans le pays que je vise. ou plus classiquement, bah, effectivement, le CV européen dans une recherche européenne aujourd'hui sera la meilleure option, bien évidemment. Je m'adapte à l'attente de mon interlocuteur.
Vous avez pas mal d'infos sur Internet, hein, pardon. Sur Internet, il y a pas mal d'infos sur le CV. Oui.
Juste par expérience, pour le CV américain, ce qu'il faut faire, c'est le personal profile de Google. En trois lignes, c'est les trois lignes qui sont les méga importantes et qui ont beaucoup de temps à faire.
Oui, voilà, hein, donc trait de caractère, c'est-à-dire une présentation plus personnelle, alors que nous, hein, c'est j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai bossé là, j'ai appris ça, quoi. Hein.
Je n'ai pas des copier-coller de personnes qui l'ont fait, parce qu'ils sont un comment on perd ce.
Alors après, nous, on a quand même la lettre de motivation, hein, qui pèse son poids, quand même, hein, à côté. Hein. Alors, qui ? Alors là, moi, ça me fait rire quand certains annoncent, oui, ils commencent par la lettre ou ils commencent par le CV, on n'en sait rien. On n'est pas avec eux. Par quoi ils commencent, ces gens-là, qui font du recrutement ? En tout cas, ils lisent les deux, pardon. Hein, ça, c'est un fait. Et on va. Moi, pour connaître des personnes qui font du recrutement, il n'y en a pas un qui me dit. Enfin, j'en ai pas la moitié qui me dit oui, moi, je commence systématiquement par le CV et ensuite par la lettre, ou vice-versa. Donc, attention à la lettre de motivation. Ce n'est pas un petit document écrit en 5 minutes qui consiste à dire. Dans l'enveloppe, il y a mon CV, hein, ou en pièce attachée, bon, il y a mon CV. Hein. On vous demande quand même de motiver. Hein. Donc, on reste quand même là pour le CV, on attaquera peut-être après la lettre. Mais tout ça pour dire que si le CV il a cette allure-là, c'est qu'à côté, il y a quand même une lettre dans laquelle vous allez pouvoir vous présenter personnellement, mettre en exergue certains points, zoomer sur d'autres, etc.
Donc, bon, on l'a dit de toute façon tout à l'heure, les deux sont des outils de communication qui sont intimement liés. Voilà. Donc, alors, moi, un peu plus que Naïma, moi, je reste quand même persuadé que... tout va dépendre du type... Voilà, j'envoie une candidature spontanée. Bien évidemment, la lettre sera peut-être lue en premier, oui. Autant que le CV. Je réponds à une annonce. Je suis recruteur. Je fais 60 CV. Je pense que la tendance naturelle, elle est quand même de lire d'abord les CV et de faire un premier tri sur les CV. Mais quelque chose d'important, c'est de se dire, les deux, de toute façon, seront très, très importants, mais l'un ne va pas remplacer l'autre. Donc, d'éviter de mettre des éléments dans votre lettre en disant, quel intérêt de commencer votre lettre par « je suis actuellement un doctorat dans tel domaine, après avoir eu l'occasion de réaliser un master recherche dans tel autre domaine, il y a un contenu qui est déjà dans votre CV. Simplement, vous avez à proposer autre chose. » Comme l'a dit Naïma, c'est une lettre de motivation. Donc, moi, ce que je pourrais conseiller aujourd'hui d'une lettre, c'est basiquement de se baser sur trois dimensions, trois chapitres importants de toute lettre, que ce soit une candidature spontanée, que ce soit une réponse à une annonce, qui est très facilement mémorisable. Vous, moi, nous. Vous, je m'adresse à quelqu'un, je réponds à quelqu'un, donc je m'intéresse à ce qu'il fait lui.
Voilà, je suis absolument d'accord avec le plan. Hein. Par contre, le vous, arrêtez de marquer vous êtes les plus beaux du monde, vous êtes coté en machin. Ça ne se fait plus, ça. Hein. On a parfois des amorces de lettres, c'est terrible. Parce qu'on vous a conseillé de parler d'eux. Ça se trouve, ils se sont cassés la figure 2 jours avant en bourse, quoi. Donc, votre truc où. Tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes, ça se trouve ils ont perdu je sais pas combien de millions de... Donc attention à ça, c'est dangereux. Donc soit vous partez d'un article de presse que vous avez lu, hein, soit vous savez qu'ils travaillent là-dedans, parce que vous travaillez aussi là-dedans, mais ayez des amorces un peu plus personnalisées. Hein. C'est vrai qu'il faut les citer, mais pas sur un bouton. Vous êtes les plus beaux, je me bosse. Donc effectivement, l'erreur que vous commettez souvent dans les lettres, c'est vous, et puis moi. Hein, moi j'ai fait ci, ça, 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 ça. Et puis ben voilà, je veux travailler pour vous, quoi. Il faut motiver votre demande, c'est-à-dire, surtout en candidature spontanée, il n'a rien demandé à l'employeur. Donc il faut lui dire pourquoi vous voulez lui écrire. Donc là, il faut avoir une lettre assez péchue. Hein. Il faut dire, voilà, moi je vous propose de faire ça, moi je sais que vous bossez là-dedans. Et comme je travaille aussi là-dedans, je pourrais vous apporter ça et ça et ça. À un moment donné, il faut sortir du lot parce que les lettres, elles sont un peu trop molles, quoi. Hein. Elles manquent de pêche. Et c'est une rencontre, quand même. Hein. la lettre, hein, c'est une proposition de rencontre. Donc il faut donner envie à l'autre de vous convoquer et de vous recevoir dans son bureau. Hein. Donc vous bossez là-dedans, moi je bosse là-dedans, et il faut qu'à un moment donné la rencontre se fasse, c'est-à-dire que vous prouviez à la personne que ce que vous faites, ce que vous avez fait, est en lien direct avec ce qu'il fait. Et là, citez. Hein. Je sais qu'actuellement vous développez ça, ou j'ai cru comprendre que vous faites, hein. Mais il se trouve que moi, je fais un truc similaire à ce que vous faites. Et là, mais allez-y, d'emblée, directement. Hein. J'ai, vous demandez dans votre emploi, ça et ça et ça, mais il se trouve que je l'ai fait. Je l'ai fait lors d'un stage machin où j'étais chargée d'eux, et je le fais actuellement parce que là, je travaille sur le développement. Ce qui fait que la personne qui va recevoir votre lettre va se dire, j'ai enfin quelqu'un qui m'écrit parce qu'il est concerné par ce que je propose. D'accord ? Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire en accroche lettre. C'est-à-dire que si je vous écris, c'est parce que je me sens concernée par le poste que vous proposez. En effet, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Hein ? Mais il faut le rassurer. On l'a dit tout à l'heure, ils ont peur de se planter. Hein ? Un recrutement qui plante, c'est pas bon, quoi. Et il y a beaucoup de CV, de très bons CV qui arrivent. Comment faire un choix ? Donc il va falloir mettre assez en avant.
En termes de légalité, est-ce que l'analyse d'actes graphiques est autorisée ?
Comment ça, l'analyse ?
Eh bien, il nous fait un graphologue par l'analyse de la culture.
Alors, ça coûte cher, une analyse graphologique.
Après, ouais, mais les grands groupes, ils peuvent payer.
Alors, pour ce qu'on en sait, oui, les grands groupes, il faut du temps. C'est que lorsqu'on n'arrive pas à départager les candidats, on peut faire intervenir l'analyse graphologique. Mais lorsque vous recevez 300 lettres, on ne va pas soumettre les 300 lettres à l'analyse graphologique.
Mais du moment qu'on est après, justement.
C'est les trois derniers.
Oui, voilà. Mais les trois derniers. Justement, est-ce que le candidat a le droit de s'opposer à cette analyse
graphologique ?
Non. Non. Puis alors, attention, quand c'est fait par un professionnel, ça va ? Quand c'est fait par une personne à qui on a payé 15 jours de formation et qui se prétend graphologue dans la boîte. Mais vraiment, ça coûte trop cher. Hein, je ne suis pas sûre. Rémi, est-ce que tu as plus d'infos ?
Oui, bah, alors, je pense que c'est un petit peu passé de mode.
Mais beaucoup ?
Les analyses graphologiques.
Oui, mais beaucoup.
Ça a un coût.
Et juste pour départager.
À la question que vous posiez en disant, de toute façon, il y a la lettre de motivation, très souvent, ce qui peut se faire, c'est plutôt en phase finale par rapport au dernier candidat. On souhaite faire une analyse graphologique en disant les candidats ont tous les mêmes compétences, finalement c'est pas lequel choisir, on va se baser sur une autre analyse complémentaire et on va faire intervenir un graphologue. Simplement, en général, l'entreprise va demander aux personnes en disant, par exemple, écoutez, vous allez nous écrire un peu une lettre de motivation par rapport au poste qu'on nous a proposé, comment vous situez par rapport à cette fonction. Les personnes vont écrire une petite page et c'est cette page-là qui va être donnée, par exemple. Mais la seule fois professionnellement où j'ai été lié à ça, j'ai travaillé pour le groupe La Fuma. J'ai été soumis à une analyse graphologique et je sais qu'après, c'était pour tous les postes d'encadrement d'entreprise. L'analyse graphologique, c'est un cabinet qui était lié et qui était mandaté. Et le coût, je crois que c'était de 3000 euros par analyse.
Oui, ça m'a donné. Hein.
Donc après, il y a des gens qui sont fervents de ça, d'autres absolument pas. Quelque part, c'est un côté aussi un peu rassurant pour certains recruteurs.
Non, mais ça fait ses preuves, parce que c'est vraiment en parlant sur la personnalité de la personne.
Oui. Non, mais alors,
travail.
Moi je dis, ça l'est quand même de moins en moins.
On va pas ouvrir le débat aujourd'hui, mais c'est vrai que vous avez raison, il est ouvert.
Oui, alors aujourd'hui, je dis, si dans la lettre, dans l'annonce, il y a écrit lettre de motivation manuscrite demandée, eh bien, je fais une lettre de motivation manuscrite, point.
Et là, il y a fort à parier qu'elle va être soumise à l'analyse graphologique.
Eh bien, pas forcément, non plus.
Mais moi,
non.
C'est ce que m'ont dit certains recruteurs.
Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que souvent...
À la Shell et dans les compagnies pétrolières, donc ça, juste je le dis, ils me disent, dès qu'on demande une lettre manuscrite, c'est qu'on est en cheville avec un cabinet qui, justement, va s'en charger. Donc, attention. Alors que normalement, elle est saisie sur Word, et puis, maintenant, vous voyez...
Non, ce que je veux dire, c'est qu'après, ça va dépendre aussi peut-être de certains secteurs d'activité, plus de d'autres, on sera plus à la mode, entre guillemets. Dans le domaine, dans le secteur sanitaire et social, oui, c'est encore très à la mode. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est plus quelque part, sans même d'aller dans une analyse graphologique, c'est plus de voir aussi un style d'écriture. il y a un certain nombre de recruteurs, c'est plus effectivement parce que c'est lisible. Est-ce que c'est pas gribouillé? Est-ce que c'est rien que la qualité de l'écriture, sans aller dans l'analyse grapho, aura d'importance? Juste je rappelle à tous ceux qui étaient au doctorial, forcément techniquement, vous avez tous fait des lettres manuscrites. Je n'ai fait, j'ai pas la compétence pour, mais je n'ai fait aucune analyse graphologique. Je peux vous assurer que la, je vais pas dire la totalité, si, si, la totalité des lettres était vraiment plus que médiocre.
Vous n'avez pas le temps.
Mais je suis d'accord.
Oui,
mais vous n'aviez pas le temps.
Oui, ils n'avaient pas le temps. Oui, mais on leur a donné trois quarts d'heure pour rédiger leurs lettres.
On vous a rendu un brouillon.
Ouais.
C'est un brouillon, d'accord.
Mais non, mais attendez, rien que le temps d'écrire une fois.
Ouais.
C'est raturé.
Non, on leur avait donné trois quarts d'heure pour rédiger la lettre.
On l'avait convenu. Ouais. C'était super difficile. Ouais. Mais ouais. Je peux le dire, voilà, cet exemple-là, les lettres, voilà, déjà, il y a quelque chose qui se dégage de la lettre.
Oui, puis les écritures, vous, la signature 2 mètres dessous, c'est vrai qu'après on peut s'amuser à lire écriture montante, descendante.